France Inter, le 18-20.
Qui n'a pas ouvert des yeux ahuris devant sa propre page Facebook en voyant défiler des statues orduriers racistes de la part d'amis virtuels qui pensent que derrière un écran on est à l'abri de tout et sans filtre? Vous aussi, vous vous êtes forcément engueulé sur Twitter avec des gens que vous ne connaissez pas parce que subitement le ton monte en 140 caractères. Vous aussi, vous avez vu voler les insultes gratuites qui parfois font tellement de mal, du racisme, de l'antisémitisme, de la haine gratuite. Vous aussi, vous savez qu'il y a des thèmes sur lesquels vous ne mettez pas les pieds parce qu'à coup sûr, tout ça finit en pugilat. Formidable Internet qui a changé nos vies, effroyable Internet qui permet tout, planqué parfois sous un pseudo ou même pas. Certains sites ont fini d'ailleurs par fermer leurs commentaires pour faire cesser le flot de haine. Il y a sans doute une éthique à trouver, un code de conduite à adopter. On en parle ce soir. Peut-on discuter sereinement sur Internet? À vous de jouer, sur les réseaux sociaux aussi. Si, mais calmement, ça va sans dire.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et Zachary, vous êtes le premier. Bonsoir à vous, bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Bonsoir. Donc oui, on voit pas mal de paroles violentes arriver sur les réseaux sociaux, notamment sur des sujets d'actualité, je trouve. Et est-ce que ça montre pas qu'il y a peut-être une radicalisation des discours publics qu'on peut entendre, lire dans les médias, et qui se traduirait du coup sur les réseaux sociaux, qui serait une forme d'exutoire pour ceux qui sentent marginalisés, pour lesquels ce serait le seul moyen d'expression, en tout cas, ce serait le seul moyen dont ils pensent le moyen par lequel ils peuvent se faire entendre. Je pense que ce serait peut-être juste du coup un mode d'expression, mais pas de débat, dans lequel on peut pas exposer vraiment sereinement une pensée, mais ce sont des simples opinions peut-être qui se percutent sans qu'il y ait de réel débat, du coup.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, Zachary, c'est ce que vous dites, en fait, tout ça c'est une bulle, il y a beaucoup de violence sur le coup, mais finalement il n'y a pas grand-chose à l'intérieur non plus?
Bah oui, c'est ça, je pense qu'en 140 caractères, on peut réagir à chaud, mais peut-être pas après interagir, en tout cas de façon vraiment posée, c'est immédiat, c'est trop immédiat.
Et sinon, Zachary, j'ai une curiosité, est-ce que vous habitez à Rennes?
Oui.
Est-ce que vous êtes le Zachary qui téléphoniait si souvent au téléphone sonne à l'époque de Nicolas Demorand? Eh bien, oui, je suis ravie de vous retrouver. Tiens, je suis bien ravie que vous ne soyez pas parti. Zachary, merci beaucoup de votre réponse, de votre question. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Et pour vous répondre, ce soir, Philippe Cohen est avec nous autour de la table. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous êtes fondateur d'une ONG qui s'appelle Respect Zone et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Vous le dites déjà dans un livre qui s'appelle Internet contre l'inter-hate. C'est à paraître au bord de l'eau la semaine prochaine. Nous sommes avec Valérie Ré-Robert aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la modération chez Concileo. Vous êtes modérateur de communautés interactives et notamment vous modérez les sites de Radio France.
Oui, tout à fait.
Chez nous et sur France Bleu, vous nous raconterez si c'est pénible ou si ça se passe bien.
D'accord.
Et puis Julien Pouillet est avec nous également. Bonsoir, monsieur Pouillet.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex du bureau de France Bleu Nord à Calais. Vous êtes journaliste à Nord Littoral. Vous avez créé chez vous un observatoire de la lutte contre la haine. Et je le précise parce que Nord Littoral a été l'un des premiers, si ce n'est le premier à fermer les commentaires sur son site internet, puis surtout à afficher les noms de ceux qui avaient des propos de haine sur vos pages, et vous nous en parlerez tout à l'heure. Philippe Cohen, la remarque de Zachary qui dit, bien sûr, tout ça est extrêmement violent, mais il y a une espèce de forme d'exutoire, et peut-être qu'au fond, c'est une espèce de bulle vide, tout ça, en fait. C'est juste une manière de, comme si on renversait un verre et puis on passe à autre chose derrière.
Et l'anonymat, effectivement, en plus, aggrave ces comportements. Alors, c'est un exutoire, mais c'est peut-être à nous aussi, société civile, journaliste, modérateur, que de rappeler que des règles de base, des règles civiles peuvent être instaurées. Et c'est pour ça qu'on a voulu, avec Respect Zone, essayer de mettre des règles très très simples pour dire, ben tiens, on est sur les autoroutes de l'information, ça va très vite depuis une trentaine d'années, il manque juste un truc très important, ce sont les panneaux pour rappeler que conduire trop vite, ça peut faire des accidents, par exemple.
Pardon, moi je l'ai lu et vous allez nous expliquer où on le trouve, votre petit sigle Respect Zone, mais est-ce qu'il suffit vraiment d'un sigle avec deux mains qui se rencontrent en un cœur pour arrêter les insultes sur Internet?
Non, il faut aller au-delà de cela et c'est pour cela que différents outils ont été créés. Vous avez un filtre à insultes qui s'appelle l'icône contre haters. Mm-hmm. Vous avez des taggers d'images sur les photos de profil, ce qui fait que lorsque vous parlez à quelqu'un où vous l'insultez et qu'il est labellisé avec un petit label qui correspond à une charte, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est un peu comme si vous allez chez quelqu'un et que vous commencez, la première chose, c'est par mettre les pieds sur la table. Il y a des choses qui ne se font pas quand les règles sont affichées.
Véronique et Robert, vous qui êtes modératrice, est-ce que c'est de pire en pire ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un pic et puis que peut-être il y a une prise de conscience aussi qu'on peut se parler différemment sur Internet? Comment vous voyez ça, vous, dans ce que vous modérez?
Non, alors pour l'instant, il n'y a toujours pas de prise de conscience.
J'avais peur de vous entendre dire ça, mais après tout, qu'est-ce qu'on risque à poser la question ?
Malheureusement, c'est de pire en pire. C'est en partie dû au fait, à mon avis, de l'instantanéité des réactions, en fait.
C'est sûr qu'à l'époque où nous écrivait une lettre, même pour nous insulter, on avait très largement le temps de la mariner, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui. Même il y a une dizaine d'années, lorsque on réagissait sur les forums, qu'il n'y avait pas Twitter, ou c'était le début de Twitter et de Facebook. Vous deviez vous inscrire, vous deviez aller chercher le bon endroit pour poster votre réaction. Vous pouviez pas poster de votre téléphone, il n'y avait pas de smartphone. Et tout ça faisait que vous aviez largement le temps de vous calmer et de réfléchir un petit peu à votre réaction. À l'heure actuelle, en trois coups sur votre téléphone, vous pouvez poster une réaction qui sera donc forcément très émotionnelle. Et donc non, c'est vraiment de pire en pire. Alors il y a des pics effectivement dus à l'actualité, mais...
Alors justement, ouais, j'allais vous poser la question. Tiens, Julien Pouillet, je vous la pose aussi. L'une des raisons pour lesquelles, chez vous, on a décidé de fermer les commentaires, est aussi liée à l'actualité. Vous êtes dans le Nord, vous êtes dans une région où on a beaucoup parlé de migrants. Et c'est notamment autour de tous ces sujets qu'à un moment, on a l'impression que, à Nord Littoral, vous avez jeté l'éponge, en fait.
On n'a pas jeté l'éponge, on a essayé de répondre plutôt à ça, en lançant une action en novembre 2015, en dévoilant l'identité des internautes qui avaient tenu des propos haineux sur les réseaux sociaux.
Vous avez été le premier, mais pas le dernier, parce que ça s'est revu après, en effet.
Ouais, ça serait... Notre action a été des répercussions, il y a eu des débats au niveau national et même au niveau international. Donc voilà, notre action n'est pas vaine et aujourd'hui on voit qu'elle a un impact.
C'est-à-dire, en quoi ça a marché en fait ?
Déjà sur notre page Facebook, aujourd'hui on a beaucoup moins de propos haineux qu'avant, parce qu'on essaye de faire du contre-discours, parce qu'on a dû bannir un certain nombre de personnes qui appelaient parfois au meurtre, tenaient des propos extrêmement violents. Et donc, forcément, cette modération a permis une amélioration, au moins sur notre page.
Alors, tiens, encore une optimiste, je voudrais qu'on écoute Sandra, qui nous appelle au 01 45 24 7000. Sandra, bonsoir, et soyez la bienvenue, on vous écoute.
Alors, moi, je suis modératrice sur un groupe de Facebook qui compte 10 400 membres. Mm-hmm. Alors, bien sûr, je ne suis pas seule, on est une dizaine de modérateurs à être vraiment actifs. Notre rôle, c'est de vérifier que les membres du groupe respectent les règles de la charte du groupe, mais aussi de maintenir la bienveillance, faire en sorte que les gens se parlent correctement. Et ça se passe plutôt bien dans l'ensemble.
Est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup à intervenir, vous le modérateur, en postant un message, peut-être en disant attention, n'allez pas trop loin, comment ça se passe ?
Alors, on rappelle régulièrement les règles de la charte, et on a finalement pas tant d'interventions à faire que ça. Et les interventions qu'on a à faire sont rarement par rapport à des propos violents. Parfois par rapport à des propos hors charte, puisqu'il y a des règles à respecter, mais rarement pour de la violence, parce que dans l'ensemble, le groupe est bienveillant. Mmh. C'est-à-dire que dès que quelqu'un tient des propos un peu violents, un peu agressifs, spontanément, il y a souvent des membres qui disent « Non mais calme-toi, ça sert à rien, reste correct ». On intervient si ça s'envenime, mais c'est quand même extrêmement rare, alors qu'il y a quand même 10 400 membres.
Vous avez quel type de discussion ? Parce que c'est un groupe un groupe de travail Facebook, mais vous discutez sur quel sujet ?
Alors en fait, grosso modo, ce groupe, c'est comme la machine à café. On peut aussi bien discuter de travail.
D'accord.
Que, un tel peut poster une photo de ses dernières vacances, de son chat, de son. Enfin, voilà, ou un commentaire, ou une blague, enfin, tous les sujets sont autorisés tant que ça respecte les règles.
Dès qu'on fait apparaître un chat, ça met tout le monde d'accord, c'est absolument terrible. Sandra...
Pas forcément, justement.
Allons bon, merci Sandra de votre appel. Philippe Cohen, modérateur, métier d'avenir, hein. Non mais sérieusement.
Non, puis en plus ici, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, puisque Sandra explique qu'elle fait à la fois le rôle de concilio et le rôle d'une charte respect zone, c'est-à-dire avec un curseur, parce que le problème c'est que s'il n'y a aucun référent, Facebook a ses propres conditions, Twitter a ses conditions, Instagram a ses conditions, Radio France aura ses conditions. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, on pourrait avoir des conditions de base communes, qui soient évidemment en phase avec la loi, mais qui traversent les frontières? Parce que l'offense, elle est internationale, la réponse doit être aussi
globale. Mais
commune
à quelle échelle, justement? On ne peut pas avoir une échelle qui serait internationale, ça me paraît impossible, ou peut-être que vous allez me contredire.
Et pourquoi non? Puisque justement, le principe d'une charte, c'est qu'elle peut être traduite. Notre charte est traduite en 22 langues, y compris le latin. Une classe de latinistes.
Mais parce que le droit à l'expression n'est pas le même suivant les pays, c'est ça.
Et c'est pour ça que la charte a été réfléchie, justement pour intégrer à la fois les valeurs françaises avec la laïcité et le premier amendement américain, et puis aussi voir et faire en sorte que l'anonymat puisse être garanti pour les pays où c'est le seul moyen de pouvoir s'exprimer d'une manière libre.
Ah ben c'est vous qui avez prononcé le mot d'anonymat, ça revient assez régulièrement, notamment sur franceinter.fr. La question cache, c'est faut-il supprimer l'anonymat? Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'à votre avis, Valérie et Robert, ça changerait quelque chose si on n'était plus anonyme, quand on commente au moins?
Alors déjà, le premier problème pour moi qui se pose à supprimer l'anonymat, c'est pour toutes les personnes qui doivent protéger leur anonymat, c'est-à-dire quelqu'un qui est homosexuel, qui tient pas à le signaler, mais qui veut témoigner sur le sujet, une personne transsexuelle, etc. Donc pour ces personnes-là doivent être protégées, donc suspendre l'anonymat, non, ça me semble dangereux. Et la seconde chose, c'est que moi je vois beaucoup de gens qui commentent sur Facebook avec leur vrai nom et prénom, et qui tiennent des propos racistes. Donc je pense pas que... En fait, c'est l'impression d'être anonyme qui compte, c'est pas l'anonymat en lui-même.
D'être caché derrière son écran,
derrière son téléphone. L'idée d'être derrière son téléphone, c'est-à-dire dans un lieu clos avec... c'est ça, en fait, qui, à mon avis, facilite la parole raciste, homophobe, etc.
David, vous êtes sur le même thème et j'aimerais qu'on vous entende. Bonsoir, David, soyez le bienvenu sur Inter.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Effectivement, moi aussi, j'avais ce problème de l'anonymat, parce que quand on va voter, et ça garantit notre liberté à tous, quoi, on vote dans l'anonymat. Est-ce que sur les réseaux sociaux, l'anonymat excuse l'insulte ou le faux pas? On voit très bien que dans les urnes, on accepte cet anonymat. Ça en revient quasiment à enlever l'anonymat sur le vote, ce qui est absolument impossible. Donc, est-ce qu'on n'est pas là, dans une espèce de lieu avec une impossibilité de répondre à la question?
Merci beaucoup pour votre question. David, vous allez répondre, Philippe Cohen. J'ai vu que vous faisiez signe. Je voudrais revenir vers vous, Julien Pouillet. Lorsque vous avez mis sur votre journal, lorsque vous avez publié dans Nord Littoral les noms des gens qui avaient des propos haineux, tous n'étaient pas sous pseudonyme, hein.
Non, il y en avait qui avaient leur véritable identité. Après, c'est un choix, on peut publier ou pas avec sa véritable identité. Il y en a même qui affichent des photos de leur enfant alors qu'ils tiennent des propos haineux, donc c'est un peu délicat. Effectivement, suite à ça, on a eu des réactions de la part de certaines personnes qui, enfin, était étonné qu'on puisse publier ça dans un journal, et alors qu'ils tenaient ses propos avec leur véritable identité. Mais quelque part, voilà, nous, on a fait ça pour qu'il y ait une prise de conscience et appeler à une responsabilisation derrière.
Est-ce que vous avez eu des excuses, Julien Pouillet? Est-ce que certaines personnes se sont dit « je me rends pas compte, effectivement, je suis derrière mon écran, je me suis pas rendu compte, pardon ». C'est arrivé ou pas du tout?
Ça arrive quand on discute avec les gens. En fait, quand on prend le temps de discuter avec les personnes, qu'on prend le temps de leur expliquer pourquoi c'est pas bien, derrière, il peut y avoir des excuses. Après, je vous cache pas qu'il y a une certaine partie infime de ceux qui commentent, qui sont là pour simplement faire de la provocation, de la haine, et qui ont plusieurs pseudos, c'est devenu un métier pour certains.
Philippe Cohen, je vous ai vu réagir, vous vouliez intervenir?
Oui, concernant cette question qui est une question très, très intéressante de cet anonymat. Comparer le vote anonyme avec une urne, c'est plutôt comparable au like. C'est-à-dire qu'on like, et ça ne veut pas dire qu'on va être offensant. On ne va pas inciter à la haine parce qu'on vote. Donc la comparaison paraît difficile. Par contre, ce qu'on peut faire, ça fait partie des 50 propositions, c'est dire que quand on est une entreprise et qu'on met à disposition la possibilité de pouvoir faire des commentaires en ligne, on pourrait demander à ce que les entreprises, donc les plateformes, les entreprises de la tech, puissent encourager la transparence. parce que le mot anonymat a un petit côté glamour parfois, en France en tout cas, ou dans les pays qui sont démocratiques, le fait est qu'on peut s'exprimer. Donc si on encourage cette transparence, ça veut dire qu'on peut par exception, c'est ce que vous disiez Valérie, avoir des cas où cet anonymat est important, parce que c'est un anonymat presque utile et indispensable, mais si on pouvait par défaut dire d'abord le premier principe, c'est par transparence, donner son nom et dire qui on est lorsque l'on s'exprime. Et puis par exception, ne pas le faire, ce qui enlèverait...
Ça donne deux niveaux en fait, ça paraît peut-être un peu compliqué,
non ? Catalyseur de la haine qui est encouragé par l'anonymat.
Valérie et Robert, est-ce qu'il y a certains sujets où on peut accepter l'anonymat et d'autres sujets où on déciderait que, non, cette fois-ci, allez-y à visage découvert ? Est-ce qu'on peut dire ça quand on est modérateur, à votre avis ?
Non, ça me semble compliqué, mais en France, à l'heure actuelle, pour certaines personnes, il est complètement impossible de faire leur coming out, par exemple, et dire qu'ils sont homosexuels. Donc, s'ils souhaitent s'exprimer sur ces sujets, ne pas s'auto-censurer, ils sont obligés de le faire sous pseudo. Donner leur identité pourrait être pour eux une perte d'emploi, une perte de logement, etc. Donc, moi, ça me semble très, très, très dangereux, en fait.
Jean-Denis est avec nous sur France Inter au 01 45 24 7000. Jean-Denis, bonsoir, on vous écoute,
bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir et merci surtout pour votre...
Merci, on entend... votre téléphone H, c'est dommage, c'était pile au moment où vous nous disiez qu'on était formidable, c'est quand même terrible.
Oui, mais vous l'êtes quand même si
merci,
ça H, hein.
Voilà, c'est bien, mieux. Vous l'avez bien répété, voilà. On vous écoute Jean-Denis.
Mais en fait, je voulais vous raconter un peu, parce que c'est beaucoup... Je me suis fait m'arriver de mes aventures, en fait. J'avais posté un mail... Attendez, je me gare parce que c'est pas prêt d'enrouler et conduire.
Non, si vous êtes en train de conduire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous entend pas bien. Garez-vous, Jean-Denis.
Ça y est, je suis arrêté.
Allez-y.
Oui, donc, c'est à l'époque, c'était sur un forum. Une personne avait posté un petit message au sujet de son chien qui avait les yeux qui pleuraient. Elle demandait pourquoi. Et son message était pourri de faute d'orthographe. Et moi, j'ai trouvé ça très amusant de dire ça doit être à cause des fautes d'orthographe, ça lui pique les yeux. Et là, moi, ça m'avait fait, pareil, c'était très spirituel, ça m'avait fait beaucoup rire, mais ça n'a pas fait rire tous les autres. J'ai reçu des messages de menaces, des insultes. Comme mon site, le site sur lequel j'étais, il y avait mon adresse mail qui était liée, j'ai reçu des mails. Alors certains, c'était plutôt dire on n'a pas votre niveau d'études, c'est pas de notre faute si on écrit mal, mais d'autres, c'était on va venir te casser la figure, on a ton adresse, des connards comme toi, excusez-moi pour l'expression, on n'en a pas besoin. Et puis, même, c'est arrivé des mails où j'en savais, on va te tuer, on va te pourrir. Il a fallu que je me désinscrive, que je change d'adresse mail et de numéro de téléphone, parce que ça devenait intenable. J'ai trouvé que les gens manquaient des fois un petit peu d'humour et que les réactions instantanées... J'avais besoin un petit peu de mettre un petit peu de trucs, c'était qu'une blague en fait au départ.
Mais vous savez, Jean-Denis, les gens n'ont l'humour que celui qu'ils veulent bien recevoir, c'est toujours un peu compliqué, surtout comme ça, à distance. Philippe Cohen, des histoires comme ça, il y en a plein finalement, parce que... surtout, on sait comment ça commence, et puis pourquoi ça se termine comme ça, une histoire comme celle de Jean-Denis en fait ?
Ben c'est parce que justement, il y a les mots n'ont plus beaucoup de sens aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec les réseaux sociaux, on s'aperçoit que il y a quand même 70% des articles de presse qui sont relayés en partage ne sont pas lus. Les mots qui sont utilisés sont extrêmes. En ce moment, vous avez une nouvelle mode qui consiste à faire des nudes quand on a 12 ans. Et la mode, ça consiste à se photographier nu et avec une perte de sens. C'est pour ça que notre travail éducatif est essentiel au-delà du travail de la modération. Et notre travail, même si vous pensez que c'est un petit peu
idéaliste, mais moi je ne pense rien.
L'éducation
je me posais simplement
n'est pas idéaliste,
la question.
On apprend à nos enfants à bien se comporter, à faire attention quand ils traversent la rue. Pourquoi est-ce qu'on ne leur apprendrait pas aussi à savoir comment s'auto-protéger sur les réseaux sociaux ?
Julien Pouillet, je suis intrigué parce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que les choses avaient un peu changé, en tout cas, ce que vous avez fait à Nord Littoral a servi de leçon. En quoi est-ce que ça a servi de leçon ? En quoi vous voyez que les choses désormais sont peut-être un peu différentes ?
Disons que, n'exagérons rien, vous me direz. Ouais, non, c'est pas ça. C'est disons que sur notre page, effectivement, il y a beaucoup moins de haine qu'avant parce que en 2015, en 2016, il y avait une crise migratoire à Calais qui était très importante et avec un flux important de d'actualité là-dessus. Aujourd'hui, ça a un petit peu diminué, donc forcément le niveau de haine aussi, je veux dire, a diminué, mais c'est un petit peu biaisé. Après, effectivement, on faisait pas de modération avant, ou beaucoup moins, maintenant on en fait beaucoup plus. On a un partenariat avec des lecteurs qui nous envoient énormément de réactions sur nos pages Facebook où on peut modérer. D'ailleurs, je les remercie parce que sans eux, on serait rien du tout. Donc voilà. Mais vous dire aujourd'hui que la haine a disparu parce qu'on a fait cette action, non, je pense que c'était plutôt destiné à avoir une prise de conscience. Et aujourd'hui, on doit encore travailler là-dessus. On essaye de travailler avec Facebook, mais c'est très compliqué.
Alors, j'allais vous poser la question, et Philippe Cohen, elle est pour vous aussi. Comment est-ce qu'on peut mieux responsabiliser Google, Facebook, Twitter? Comment est-ce que c'est possible?
Alors c'est pour ça qu'on a essayé avec les 50 idées de pouvoir leur proposer des outils qui soient pas coercitifs, parce que c'est vrai que si on arrive avec des outils coercitifs, on n'est pas accueilli pareil que lorsqu'on arrive avec des outils qui sont incitatifs. Et dans ces outils, la philosophie générale, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer dans les plateformes des outils qui intègrent le respect de la dignité humaine par défaut, c'est-à-dire le fait d'avoir le bouton du respect qui soit accessible plutôt que de n'avoir rien ou d'avoir aucun curseur. Et c'est comme ça qu'on essaie de commencer à travailler avec eux. Nous sommes écoutés, la porte s'ouvre. C'est un très long travail.
Mais il y a eu un code de conduite, pardon de vous interrompre, il y a eu un code de conduite qui a été mis en place, c'était l'année dernière, en 2016, si je ne m'abuse,
avec la Commission européenne.
Oui, c'est ça, avec la Commission européenne, avec l'obligation de signaler plus vite.
On ne parle pas de la même chose. Ici, on parle de l'après-offense. Notre travail, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'offense. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le label qui rappelle, c'est un peu comme tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, avant de faire mal, c'est avant que ça se passe. Lorsque l'on est sur du reporting, sur du signalement, c'est trop tard. C'est que la haine a été commise.
Est-ce que c'est possible, à votre avis, Valérie et Robert, de signaler avant, c'est-à-dire avant qu'on en arrive au signalement, quand on est un Facebook, quand on est un Twitter, quand on est tout ça, une vigilance des plateformes avant qu'on en arrive au signalement, est-ce que ça vous paraît possible dans un futur proche ou lointain?
C'est compliqué, les deux plateformes sont pas les mêmes, déjà. Ce sont des entreprises. Il faut qu'elles aient davantage de bonne volonté pour faire de la prévention et qu'elles aient envie de le faire. Pour l'instant, c'est pas vraiment
ça. Il s'est passé une chose qui est essentielle. 18 août, Charlottesville. Vous avez du discours néo-nazi sur le sol américain. Pour la première fois, toutes les entreprises importantes de la tech américaine se sont auto-saisies, alors qu'avant, il fallait attendre qu'un juge arrive. C'était le cas des moyens de paiement, PayPal, etc., Amex. C'était le cas aussi de Airbnb, c'est le cas de Google, Twitter, où ils ont déréférencé les sites nazis. Pourquoi? Parce que comme c'est arrivé sur leur sol, ils se sont dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça de manière préventive? Donc ça veut dire que c'est possible de faire
en prévention. Après, Zuckerberg se lance visiblement dans la course à la présidence dans 10 ans ou...
Il n'est pas encore, mais enfin, effectivement, il y a peut-être ça dans l'air. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait le ménage sur son site.
Peut-être qu'il va écouter un peu les critiques.
Il y a une chose qu'il faut rappeler, Philippe Cohen, et c'est bien de le dire, on peut porter plainte quand on est visé directement sur les réseaux sociaux. Très souvent, les gens ne le font pas, mais non seulement c'est possible, mais j'ai presque envie de dire que c'est finalement assez facile, parce qu'on a tous une adresse IP. C'est comme ça qu'on nous repère derrière notre ordinateur. On peut porter plainte, ça.
On peut. Alors, c'est quand même très, très peu suivi. Il y a aussi un coût si ça fait l'objet de poursuites. C'est pour ça que dans les propositions qu'on amène, on propose aussi de pouvoir étendre l'action de groupe aux problèmes qui sont liés à du signalement en discrimination. Aujourd'hui, vous avez une action de groupe possible juste pour les discriminations, donc à l'embauche. Et ce qu'on aimerait, c'est que par rapport aux plaintes pour les offenses racistes, sexistes, etc., que l'on puisse travailler sur des actions de groupe.
Est-ce qu'on a une idée, même très vague, du nombre de gens qui finalement portent plainte? Est-ce que ce pourcentage, est vraiment minime?
11 000 plaintes par an sur les thématiques qui sont les nôtres. Et seulement 5% font l'objet de poursuites.
Mais 11 000, c'est pas mal, non?
C'est aussi une manière. C'est des signalements, c'est pas des plaintes, c'est des signalements.
11 000 signalements? Et pour combien de plaintes au bout du compte?
Plainte, à mon avis, c'est beaucoup moins que ça. Parce que les plaintes sont considérées comme étant lourdes d'un point de vue juridique, d'où l'idée de pouvoir privilégier les actions mutualisées qu'on appelle les actions de groupe.
Alors la militante féministe Caroline Dehaas avait porté plainte. Et il y a eu un non-lieu derrière, en fait. Alors qu'elle avait, fourni tout ce qu'il y avait à fournir en matière. Elle avait reçu des menaces de mort, des menaces de viol, et il y a eu un non-lieu. Alors, on ne sait pas pourquoi il y a eu un non-lieu, mais donc ça dissuade et ça entretient ce climat d'impunité.
Cyril est à Grenoble et sa remarque vient régulièrement sur le franceinter.fr ce soir. Je suis un grand pratiquant d'Internet. Par contre, je ne lis plus les commentaires sur les réseaux sociaux concernant notamment les sujets d'actualité, car j'ai l'impression que les gens commentent sans jamais avoir lu l'article. Évidemment, Philippe Cohen, que les gens commentent sans avoir lu l'article, c'est triste à dire.
Oui.
Mais 70%, ça a été... monitorer, si je puis dire,
commande,
on le sait.
Ou même relais. Mais ce qui paraît très très inquiétant, c'est qu'est-ce que va devenir la liberté de l'expression sur Internet. On sent qu'il y avait une très belle courbe depuis 25 ans, et aujourd'hui elle est en train de baisser. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas un média qui ne ferme pas ses commentaires. Mmh. Ce qui est vraiment très très inquiétant. Notre travail, notre volonté, c'est de pouvoir rouvrir les commentaires sous égide d'une charte donnée. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec des médias bientôt. J'espère qu'on pourra le dire bientôt à votre micro.
Et puis, mais j'espère peut-être... aussi, et qu'on le fera ensemble, allez savoir.
Peut-être.
Julien Pouillet, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il suffirait chez vous, à votre avis, quel serait l'outil idéal pour pouvoir très tranquillement rouvrir les commentaires et qu'à nouveau une discussion puisse se produire chez vous, mais chez d'autres, évidemment, je vous pose la question à vous parce que vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il suffirait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que quelque chose se déclenche ?
Nous, c'est très important qu'on puisse travailler avec les réseaux sociaux et notamment avec Facebook, parce qu'en fait, si vous voulez, sur notre site internet, on n'a plus de commentaires. Non pas parce qu'on a fermé les commentaires, mais parce qu'en fait, l'intégralité des commentaires se sont déportés sur Facebook. Donc aujourd'hui, en fait, le débat à Nord Littoral ne porte que sur Facebook. Donc évidemment, si on ne travaille pas la modération, c'est catastrophique. Puisque en fait, sur Internet, sur notre site, on a bien sûr beaucoup plus de possibilités de modération. On peut fermer les commentaires sur un papier si on voit que voilà, la courbe de haine grossit de façon importante. C'est pas possible sur Facebook. Donc nous, ce qu'on attend de Facebook, c'est qu'on puisse actuellement, si vous voulez, notre mode de fonctionnement est très artisanal. C'est on nous envoie des mails, soit par Facebook, soit par boîte mail, hein, tout simplement. On nous dit voilà, à tel endroit il y a la haine. Enfin il y a des propos haineux. Est-ce que vous pouvez modérer? On en reçoit plusieurs dizaines par jour parfois. Et on n'a pas les moyens. Il faut aller rechercher dans des papiers où parfois il y a des centaines de commentaires. Pour pouvoir modérer. Et on fait ça nous-mêmes, quoi, et grâce à nos lecteurs. Donc nous, ce qu'on voudrait avec Facebook, c'est qu'ils puissent développer en interne une option qui puisse nous permettre de modérer plus facilement, en fait.
C'est-à-dire parce que, en fait, Philippe Cohen, éclairez-nous là-dessus. Quelles sont les étapes avant de pouvoir modérer soi-même, en fait, comme le disait Julien Pouillet à l'instant, pour que ce soit plus facile?
C'est-à-dire qu'il faudrait déjà pouvoir avoir des vrais outils, c'est exactement ce que disait Monsieur Pouillet, c'est-à-dire de pouvoir être alerté au moment où ça va pas, et puis aussi, ce qui serait bien, je le redis, ça serait de
faire en sorte... C'est ce que tu disais sur la mise...
De mer amont, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décourage...
La vigilance en amont, en fait.
Et comment est-ce qu'on dit, écoutez, c'est un peu comme une zone non-fumeur. Si on l'affiche comme telle, vous apercevez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fument sous le panneau zone non-fumeur. Alors, est-ce qu'il faut la police ou la maréchaussée? Non, c'est parce que vous avez des réflexes civiques. Lorsqu'on articule une règle, elle existe. C'est pareil avec le boulevard périphérique. Il y a une époque où il n'y avait pas de panneau 70 et on roulait jusqu'à 200 à l'heure sur la file de gauche. Maintenant qu'il y a un panneau chaque 50 mètres, la règle existe parce qu'elle est articulée. Ce qui n'est pas étanche, mais c'est déjà un plus.
Camille nous écrit au 01 45 24 7000. Camille, bonsoir, vous êtes sur France
bonsoir.
Inter, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Moi, je voulais apporter mon témoignage. Ça m'est pas arrivé directement, mais c'est surtout pour porter la parole de confrères et consoeurs, parce que je suis vétérinaire. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, beaucoup de cliniques et de cabinets ont des pages Facebook pour avoir une visibilité sur Internet, hein, pour exposer les horaires... qu'on fait, etc. La contrepartie de ça, c'est que dès qu'il y a un souci avec un animal, des clients mécontents, etc., ils déversent leur haine, hein, parfois sur les pages Facebook, avec des conséquences qui peuvent être vraiment dramatiques, des réputations qui sont complètement détruites, et puis de fil en aiguille, des gens qui sont même complètement ailleurs en France, qui se mêlent de la conversation, avec menaces de mort, et par conséquent des vitrines vandalisées, des choses comme ça, des vétérinaires qui partent en dépression parce que ça va plus du tout, perte de clientèle, etc. Donc ça existe peut-être dans d'autres professions médicales, je sais pas, mais enfin en tout cas, nous qui sommes une profession où on est assez peu nombreux en France pour les vétérinaires praticiens, on se tient au courant de tout ça par des groupes nous-mêmes internes, si vous voulez. Et puis, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de veille qui se met en place où on se signale les uns les autres quand il y a des commentaires indélicats sur la page d'un confrère. Quoi.
Valérie, merci beaucoup pour votre question, Camille. Valérie et Robert, vous qui êtes modératrice, il n'y a pas que les vétérinaires qui sont victimes de ce genre de choses. Ça existe dans toutes les professions. Hélas, dès lors qu'on s'expose sur le net pour dire simplement qu'on est ouvert, qu'on est une entreprise, qu'on a une chambre à louer ou autre chose de ce genre-là.
Oui, tout à fait. Après, ce n'est pas forcément une parole haineuse. Ça peut être aussi quelqu'un qui a effectivement
Quand ce n'est pas une parole haineuse, tout va bien, mais quand ça dérape, effectivement.
Ça peut effectivement être quelqu'un qui a eu une expérience très négative avec quelqu'un. Après, il y a des lois sur la diffamation qui existent. Donc, mais le problème, c'est que si on est diffamé ou si on s'estime diffamé sur Internet, et même, vous disiez tout à l'heure qu'on a tous une adresse IP, mais encore faut-il que Twitter ou Facebook acceptent de fournir à la justice la dite adresse IP pour que la personne qui diffame soit poursuivie. Et pour le moment, là-dessus, ils souhaitent pas vraiment le faire. Ils invoquent des lois américaines, etc. Donc c'est assez compliqué encore.
Philippe Cohen, est-ce qu'il y a moyen, si moi je suis comme Camille, là, que je suis vétérinaire et que vraiment certaines de ces insultes sont absolument terribles ou totalement non fondées, est-ce que je peux les faire retirer? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est trop tard? Une fois que ça y est, c'est foutu, c'est mort.
Vous allez faire quoi? Vous allez soit porter plainte, soit aller devant ce qui sera à Paris, la 17e chambre correctionnelle, pour une diffamation publique, par exemple. Donc ensuite, il va falloir rapporter la preuve que c'est exactement ce que disait Madame Valérie Ray-Robert, que les allégations ne sont pas fausses, ce qui est tout un travail, ce qui va prendre un temps, qui va prendre entre 1 an et 3 ans pour la première instance, avec un coût qui va être aux alentours entre...
Ouais, mais c'est terrible parce qu'entre-temps, le cabinet de Camille, il peut avoir coulé.
Et le
quoi.
Temps de la justice n'a rien à voir avec le temps de l'offense. Et c'est pour ça que les moyens, on va dire, classiques, répondent finalement assez mal à cette violence moderne. Et c'est en cela qu'il va falloir qu'on invente d'autres choses. Alors, vous avez des propositions dans ce livre.
Oui, il y en a 50.
Mais il y en aura d'autres ailleurs. Mais ce qu'il faut vraiment qu'on fasse. C'est pour ça que c'est bien que vous nous ayez invités aujourd'hui sur ce plateau. C'est qu'on puisse réfléchir ensemble à voir comment est-ce qu'on apporte des réponses adaptées à l'offense comme elle a changé. Mmh. Regardez, là on parle de quelle loi? La loi sur la diffamation de presse, 1881. Mmh.
Oui, c'est loin.
Tout est dit.
Ah, tiens, il y a une question qui est par détour pour vous, Valérie Cray-Robert. C'est une question de Yves qui dit « France Inter a coupé les commentaires. J'adore lire pourtant ce que les gens pensent, mais les grands médias ont supprimé tous les commentaires des gens lambda. » Et ce que nous dit Yves, et c'est vrai que peut-être que tout le monde le regrette finalement, c'est que on a coupé cette manne pour tout le monde, pour 4, 5, 10 personnes qui déversent tant de haine que finalement ce sont leurs commentaires à eux qui ont pris plus d'importance que ceux des autres.
Oui, c'est le problème, c'est que une toute petite minorité arrive à faire taire la majorité. D'ailleurs, sur les sites où les commentaires sont encore ouverts, on constate, et qui ne sont pas modérés, on constate une forme d'autocensure. C'est-à-dire que la grande majorité va partir et va se taire parce qu'une petite minorité hurle et invective tout le monde. C'est d'où l'intérêt, je presse un peu pour ma paroisse, de la modération.
Mais vous faites bien.
Parce que ça permet
modérateur,
justement...
Modérateur, métier d'avenir.
Voilà. Ça permet justement que tout le monde puisse s'exprimer.
Ralid, vous êtes le dernier. Il nous reste 3 minutes sur France Inter, mais on est ravis de vous entendre et de vous écouter. Allez-y.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, très brièvement, il y a bien sûr beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous ne pensez pas que le défaut d'avoir une définition claire de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé dans notre pays, quand on tient des propos sexistes, racistes, homophobes, etc., où est l'interdit, où est l'autorisé? Cette frontière ne me semble pas du tout claire dans l'esprit de nos compatriotes. Et je m'en limiterai là, car le temps est compté.
Et merci beaucoup de vous être bien tenu dans les 40 secondes, Ralid. Julien Pouillet, est-ce qu'on peut aider Ralid à répondre à cette question? Vous qui avez eu affaire à beaucoup de commentaires racistes, notamment sur Nord-Littoral, est-ce que vous avez le sentiment que parfois que les gens ne savent pas jusqu'où ils n'ont pas le droit d'aller? Ce qui n'est pas une excuse, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce que vous avez ce sentiment en lisant les commentaires ou pas?
Bah, ça dépend de quels commentaires on parle. Moi, je sais pas si je peux les lire à l'antenne, mais là, j'ai des commentaires devant mes yeux, là, qui sont... on peut pas dire... Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est voilà des appels au meurtre. Là-dessus, on peut pas débattre. En fait, il y a pas de débat possible. Et c'est pour ça quand on dit il faut du contre-discours, d'accord, mais il faut aussi de la modération et des sanctions importantes. Tout à l'heure, on parlait des sanctions de la justice et du laxisme. L'injure à caractère racial, c'est 6 mois d'emprisonnement, 22 500 € d'amende. La provocation à la haine, c'est 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende au maximum. Aujourd'hui, en fait, en France, on est dans une société qui applique, si vous voulez, la culture de l'exemple. On pense qu'avec un exemple, il y a très peu de condamnations, en fait. Et on pense qu'avec un exemple, ça va suffire à faire peur à tout le monde. Et en fait, on voit bien que non. On voit bien que non. Donc je pense qu'en fait, voilà, il y a un certain nombre de commentaires où il n'y a pas de débat possible. On sait bien les limites... Entre ce qui est admissible et ce qui n'est pas admissible.
Philippe Cohen, une remarque rapide, ce sera la dernière.
C'est bien parce que les choses sont pas claires et qu'elles évoluent tout le temps. Si vous prenez le code pénal, par exemple, en termes de racisme, antisémitisme, etc., vous avez 22 incriminations. Alors avant, c'était 19, 23. Et donc, ce qui nous paraît intéressant, c'est qu'il y a aussi un test, c'est le test du respect. Le test du respect, c'est est-ce que si moi je te disais la même chose, tu te trouverais respecté? Et c'est pour ça qu'on a choisi le terme magique du respect.
Et voilà, respectzone.org en tout cas, allez voir pour ceux que ça intéresse et voyez effectivement comment ça marche, le livre Internet contre Inter-Hate, ça sort le 18 octobre, signé Philippe Cohen et c'est au bord de l'eau. Et tiens, juste avant de vous quitter, je voudrais cette petite remarque qui nous arrive par le .fr de France Inter. Je suis peut-être un peu vieux jeu mais je me refuse à donner mon avis sur un quelconque réseau social, au pire je partage mes opinions avec mon chat dont je ne diffuse pas ma photo, avec ma famille ou mes amis, ça me suffit, quoique là je suis en train de donner mon avis, mais enfin c'est France Inter et tout va bien. Et il a raison, c'est France Inter et tout va bien. Merci à tous.